Aristote, Morale à Nicomaque, livre 1er, chapitre 5. Sommaire. Imperfection inévitable de cette esquisse du bonheur. Le temps complétera ses théories. Il ne faut pas exiger en toute chose une égale précision. Importance des principes. Paragraphe 1. Contentons-nous, pour le moment, de cette esquisse imparfaite du bien. C'est une nécessité, peut-être utile, que de commencer par en tracer d'abord cet incomplet tableau, sauf à revenir ensuite sur ses premiers traits. Une fois que l'esquisse a été bien faite, il semble que tout le monde est capable de continuer l'œuvre et d'en préciser tous les détails. C'est le temps qui trouve tous ces progrès, ou qui du moins est un puissant auxiliaire pour les faire découvrir. Il est la source de tous les perfectionnements des arts. Car une fois qu'un art est créé, il n'y a personne qui ne puisse contribuer à en combler successivement les lacunes. Paragraphe 2. Il ne faut pas oublier non plus ce qui vient d'être dit. Répétons qu'il n'est pas juste d'exiger en toute chose un même degré d'exactitude et qu'on ne doit demander dans chaque cas qu'une précision relative à la matière qu'on traite. Il faut même se résigner à ne l'obtenir que dans la mesure compatible avec les procédés et la méthode qu'on applique. C'est ainsi, en effet, que le maçon et le géomètre recherchent très différemment la ligne droite. L'un ne s'en inquiète qu'autant qu'elle peut servir à l'ouvrage qu'il fait. L'autre l'étudie dans ce qu'elle est en elle-même et dans ses propriétés, car il ne cherche et ne contemple que le vrai. C'est aussi ce qu'il faut savoir faire dans toutes les autres choses, de peur que les hors-d'œuvre ne deviennent plus nombreux que les œuvres mêmes. Paragraphe 3. Un motif semblable doit nous engager encore à ne pas vouloir, en toute chose, remonter également à la cause. Dans bien des cas, il suffit de montrer clairement l'existence de la chose, comme on le fait pour les principes. Car l'existence de la chose est un principe et un point de départ. D'ailleurs, parmi les principes, les uns sont découverts et connus par l'induction, les autres le sont par la sensibilité. D'autres le sont encore par une sorte d'habitude. D'autres, enfin, viennent d'une autre origine. Il faut apprendre à traiter chacun de ces principes par la méthode qui répond à sa nature. Et l'on ne saurait apporter trop de soin à les bien déterminer. Ils ont une grande importance pour les déductions et les conséquences qu'on en tire. Car l'on a bien raison de dire que le principe ou le commencement est plus que la moitié en toute chose et qu'il suffit à lui seul pour éclaircir bien des points dans les questions que l'on discute. Chapitre 6. Sommaire. Justification de la définition du bonheur proposée plus haut. Pour bien se rendre compte de cette définition, il faut la rapprocher des attributs divers qu'on donne vulgairement au bonheur. Division des biens en trois espèces. Biens du corps, biens de l'âme et biens extérieurs. Le bonheur implique nécessairement l'activité. L'activité, réglée par la vertu, est la plus haute condition du bonheur de l'homme. Toutefois, les biens extérieurs complètent encore le bonheur et semblent des accessoires indispensables. Paragraphe 1. Pour bien comprendre le principe posé ici, il ne faut pas s'en tenir seulement à la conclusion à laquelle nous avons abouti, ni aux éléments qui composent la définition du bonheur donnée par nous. Il faut s'éclairer, en outre, en considérant les attributs qu'on accorde ordinairement au bonheur. Car les réalités sont toujours d'accord avec une définition vraie, et la vérité est bien vite en désaccord avec l'erreur. Paragraphe 2. Les biens ayant été divisés en trois classes, biens extérieurs, biens de l'âme et biens du corps, les biens de l'âme sont à nos yeux ceux que nous appelons plus spécialement et plus excellemment des biens. C'est à l'âme que notre définition attribue les facultés et les actes que l'âme seule dirige. Et nous pouvons dire que cette définition est bonne, puisqu'elle est conforme à cette opinion très ancienne et admise unanimement par tous ceux qui s'occupent de philosophie. Paragraphe 3. C'est encore avec raison que nous avons dit que certaines applications de nos facultés et certains actes sont le véritable but de la vie. Car alors, ce but est placé dans les biens de l'âme et non pas dans les biens extérieurs. Paragraphe 4. Ce qui confirme notre définition, c'est que l'on confond ordinairement l'homme heureux avec l'homme qui se conduit bien et réussit. Et ce qu'on appelle alors le bonheur est une sorte de succès et d'honnêteté. Paragraphe 5. Ainsi, toutes les conditions requises habituellement pour composer le bonheur semblent se réunir dans la définition que nous en avons donnée, car pour ceci, le bonheur est de la vertu, pour cela, c'est de la prudence. Pour les uns, c'est la sagesse, pour les autres, c'est tout cela ensemble ou quelque chose de cela, à quoi l'on joint le plaisir, ou qui du moins n'est pas privé de plaisir. Il en est même d'autres qui veulent comprendre, dans ce cercle déjà si vaste, l'abondance des biens extérieurs. Paragraphe 6. De ces opinions, les unes ont été soutenues et dès longtemps par de nombreux partisans. Les autres ne l'ont été que par quelques hommes en petit nombre, mais illustres. Il est raisonnable de supposer que les uns, pas plus que les autres, ne sont tombés dans l'erreur sur tous les points, et qu'au moins, ils ont bien vu sur quelques-uns, ou même sur presque tous. Paragraphe 7. D'abord, notre définition est acceptée par ceux qui prétendent que le bonheur est la vertu, ou du moins une certaine vertu, car l'activité de l'âme conforme à la vertu fait bien aussi partie de la vertu. Paragraphe 8. Mais il n'est pas du tout indifférent de placer le bien suprême dans la possession ou dans l'usage de certaines qualités, dans la simple aptitude ou dans l'acte lui-même. L'aptitude peut exister fort réellement sans produire aucun bien, comme par exemple dans un homme qui dort ou dans un homme qui, pour toute autre cause, reste inactif. L'acte, au contraire, ne peut jamais être dans ce cas puisqu'il agit nécessairement et que de plus, il agit bien. Il en est ici comme aux Jeux olympiques. Ce ne sont pas les hommes les plus beaux ni les plus forts qui reçoivent la couronne. Ce ne sont que les concurrents qui en préparent au combat. Car c'est seulement parmi eux que se trouvent les vainqueurs. De même, ce sont ceux qui agissent bien qui seuls peuvent prétendre dans la vie à la gloire et au bonheur. Paragraphe 9. Du reste, l'existence de ces hommes qui agissent bien est par elle-même pleine de charme. Être charmé est un phénomène qui se rapporte exclusivement à l'âme et un objet a pour nous des charmes quand on peut dire de cet objet que nous l'aimons. Le cheval, par exemple, charme celui qui aime les chevaux. Le spectacle, charme celui qui aime les spectacles. Tout comme les choses justes, charme celui qui aime la justice. Et, d'une manière plus générale, les actes vertueux charment celui qui aime la vertu. Paragraphe 10. Si les plaisirs du vulgaire sont si différents et si opposés entre eux, c'est que ce ne sont pas de leur nature de vrais plaisirs. Les âmes honnêtes qui aiment le beau ne goûtent que les plaisirs qui, par leur nature, sont des plaisirs véritables. Et ceux-là, ce sont toutes les actions conformes à la vertu. Elles plaisent à ces cœurs bien faits et elles leur plaisent uniquement par elles-mêmes. Paragraphe 11. Aussi, la vie de ces hommes généreux n'a pas besoin, le moins du monde, que le plaisir vienne se joindre à elle comme une sorte d'appendice et de complément. Elle porte le plaisir en elle-même, car, indépendamment de tout ce que nous venons de dire, on peut ajouter que celui qui ne trouve pas son plaisir aux actions vertueuses n'est pas vraiment vertueux. De même, on ne peut pas appeler juste celui qui ne se plaît pas à pratiquer la justice, ni libéral celui qui ne se plaît pas aux actes de libéralité, et ainsi du reste. Paragraphe 12. Si tout ceci est vrai, ce sont les actions conformes à la vertu qui sont en elles-mêmes les vrais plaisirs de l'homme. Elles ne sont pas seulement agréables, elles sont en outre bonnes et belles, et elles le sont par-dessus toutes choses, chacune en leur genre, si toutefois l'homme vertueux sait en juger à leur juste valeur. Et il en juge comme il faut, ainsi que nous l'avons dit. Paragraphe 13. Ainsi donc, le bonheur est tout à la fois ce qu'il y a de meilleur, de plus beau et de plus doux, car il ne faut rien séparer de tout cela comme le fait l'inscription de Délos. Le juste est le plus beau, la santé est le meilleur, obtenir ce qu'on aime est le plus doux au cœur. Mais tous ces avantages se trouvent réunis dans les bonnes actions, dans les meilleures actions de l'homme, et l'ensemble de ces actes, ou du moins l'acte unique qui est le meilleur et le plus parfait entre tous les autres, c'est ce que nous appelons le bonheur. Paragraphe 14. Néanmoins, le bonheur, pour être complet, semble ne pouvoir se passer des biens extérieurs, ainsi que nous l'avons fait remarquer. Il est impossible, ou du moins il n'est pas facile, de faire le bien quand on est dénué de tout. Pour une foule de choses, ce sont des instruments indispensables que les amis, la richesse, l'influence politique. Paragraphe 15. Il est d'autres choses encore dont la privation altère le bonheur des hommes à qui elle manque. La noblesse, une heureuse famille, la beauté. On ne peut pas dire qu'un homme soit heureux quand il est d'une difformité repoussante, s'il est d'une mauvaise naissance, s'il est isolé, sans enfant. Encore moins, peut-être, peut-on dire d'un homme qu'il soit heureux s'il a des enfants ou des amis complètement pervers, ou si la mort lui a enlevé les amis et les enfants vertueux qu'il possédait. Paragraphe 16. Ainsi donc, nous le répétons, il semble qu'il faille encore pour le bonheur ses utiles accessoires, et voilà pourquoi l'on confond souvent la fortune avec le bonheur, comme d'autres le confondent avec la vertu. Chapitre 7. Sommaire. Le bonheur n'est pas l'effet du hasard. Il est à la fois un don des dieux et le résultat de nos efforts. Dignité du bonheur ainsi compris. Cette théorie s'accorde parfaitement avec le but que se propose la politique. Parmi tous les êtres animés, l'homme seul peut être heureux parce qu'il est seul capable de vertu. On ne peut pas dire d'un homme qu'il est heureux tant qu'il vit et qu'il est exposé au coup de la fortune. Ressentons encore des biens et des maux après la mort. Paragraphe 1. C'est là ce qui fait aussi qu'on s'est demandé s'il est possible d'apprendre à être heureux, d'acquérir le bonheur par certaines habitudes et de l'atteindre par tout autre procédé analogue, ou s'il n'est pas plutôt l'effet de quelques faveurs divines et peut-être même le résultat du hasard. Paragraphe 2. De fait, S'il est au monde un don quelconque que les dieux aient accordé aux hommes, on pourrait croire à coup sûr que le bonheur est un bienfait qui nous vient d'eux. Et l'on doit le croire d'autant plus volontiers qu'il n'est rien pour l'homme au-dessus de lui. Paragraphe 3. Du reste, je n'approfondis pas cette question qui appartient peut-être plus spécialement à un autre ordre d'études. Mais je dis que si le bonheur ne nous est pas uniquement envoyé par les dieux, et si nous l'obtenons par la pratique de la vertu, par un long apprentissage ou par une lutte constante, il n'en est pas moins l'une des choses les plus divines de notre monde, puisque le prix et le but de la vertu sont évidemment quelque chose d'excellent, de divin et une vraie félicité. Paragraphe 4. J'ajoute que le bonheur nous est même en quelque sorte accessible à tous, car il est possible pour tout homme, à moins que la nature ne l'ait rendu complètement incapable de toute vertu, d'atteindre au bonheur par une certaine étude et par des soins convenables. Paragraphe 5. Comme il vaut mieux conquérir le bonheur à ce prix plutôt que de le devoir au simple hasard, la raison nous porte à supposer que c'est bien réellement ainsi que l'homme peut devenir heureux, puisque les choses qui suivent les lois de la nature sont toujours naturellement les plus belles et qu'il est possible qu'elles le soient. Paragraphe 6. Or, la même règle s'applique à tous les arts, à toutes les causes, et surtout à la cause la plus parfaite, car ce serait par trop absurde d'imaginer que ce qu'il y a de plus grand et de plus beau est livré au hasard. Paragraphe 7. La solution du problème que nous posons ici ressort avec pleine clarté de la définition même que nous avons donnée du bonheur. Le bonheur, avons-nous dit, est une certaine activité de l'âme conforme à la vertu. Et quant aux autres biens, où ils se trouvent nécessairement compris dans le bonheur, où ils y contribuent comme des auxiliaires et comme de naturels et utiles instruments. Paragraphe 8. Ceci, du reste, est parfaitement d'accord avec ce que nous disions en commençant ce traité. Le but de la politique, telle que nous la concevions, est le plus élevé de tous, et son soin principal, c'est de former l'âme des citoyens et de leur apprendre en les améliorant la pratique de toutes les vertus. Paragraphe 9. Nous ne pourrons donc appeler heureux ni un cheval, ni un bœuf, ni aucun autre animal quel qu'il soit, car aucun d'eux n'est capable de la noble activité que nous assignons à l'homme. Paragraphe 10. C'est encore par la même raison qu'on ne peut pas dire d'un enfant qu'il est heureux. Son âge ne lui permet pas encore les actions qui constituent le bonheur. Et les enfants auxquels on applique parfois cette expression ne peuvent être appelés heureux qu'à cause de l'espérance qu'ils donnent, puisque pour le vrai bonheur, il faut, comme nous le disions plus haut, les deux conditions et d'une vertu complète et d'une vie complètement achevée. Paragraphe 11. Il y a dans le cours de la vie beaucoup de vicissitudes et bien des fortunes diverses. Il se peut qu'après une longue suite de prospérité, on voit sa vieillesse tomber dans de grands malheurs, comme la fable le raconte de Priam dans les poèmes héroïques. Et personne ne peut appeler heureux l'homme qui a éprouvé tant de fortune et qui a fini si misérablement. Paragraphe 12. Est-ce donc à dire qu'il ne faille jamais affirmer qu'un homme est heureux tant qu'il vit encore et que, suivant la maxime de Solon, on doive toujours attendre et voir la fin? Paragraphe 13. Mais s'il faut accepter cette théorie, l'homme n'est-il donc heureux qu'après qu'il est mort? N'est-ce pas là une absurdité frappante, surtout quand on soutient, comme nous le faisons, que le bonheur est une certaine application de l'activité. Paragraphe 14. Si nous ne pouvons pas admettre que l'homme ne soit heureux qu'après sa mort, et Solon ne prétend pas cela non plus, et si nous voulons dire seulement qu'on ne peut avec assurance appeler un homme heureux que quand il est hors des atteintes de tous les maux et de toutes les infortunes, cette opinion ainsi restreinte ne laisse pas que de présenter encore matière à controverse. Il semble en effet, dans ce système, qu'il reste après la mort des biens et des maux qu'on éprouverait alors comme on en éprouve aussi durant la vie, sans d'ailleurs les sentir personnellement. Et par exemple, les honneurs et les affronts, ou, d'une manière plus générale, les succès et les revers de nos enfants et de notre postérité. Paragraphe 15. Ceci, comme on voit, est assez embarrassant, puisqu'on peut avoir été heureux durant toute sa vie, y compris sa vieillesse, on peut en outre être mort dans la même prospérité, et l'on peut en même temps avoir éprouvé une foule de traverses dans la personne de ses descendants. Il peut se faire que parmi eux, les uns aient été vertueux et qu'ils aient joui du sort qu'ils méritaient. Les autres peuvent avoir eu un destin tout contraire, car il est clair qu'à mille égards, les fils peuvent complètement différer de leur père. Or, il est insensé d'admettre qu'un homme, même après sa mort, puisse éprouver avec ses descendants toutes ces alternatives diverses, et qu'il soit en leur compagnie, tantôt heureux, tantôt malheureux. Paragraphe 16. Il est vrai que d'un autre côté, il n'est pas moins absurde de supposer que rien de ce qui touche les fils ne puisse même un seul instant remonter jusqu'à leurs parents. Chapitre 8. Sommaire. Il n'est pas besoin d'attendre la mort d'un homme pour dire qu'il est heureux. C'est la vertu qui fait le vrai bonheur. Et il n'y a rien de plus assuré dans la vie humaine que la vertu. Distinction entre les événements de notre vie selon qu'ils sont plus ou moins importants. Les épreuves fortifient et rehaussent la vertu. L'homme de bien n'est jamais misérable. Sérénité du sage et constance de son caractère. Nécessité des biens extérieurs en une certaine mesure. Paragraphe 1. Revenons à la première question que nous nous étions antérieurement posée. Elle peut, très aisément, contribuer à résoudre celle que nous nous proposons maintenant. Paragraphe 2. S'il faut toujours attendre et voir la fin, et si c'est seulement alors qu'on peut déclarer les gens heureux, non pas parce qu'ils le sont à ce moment même, mais parce qu'ils l'ont été jadis, comment ne serait-il pas absurde, quand un homme est actuellement heureux, de ne pas reconnaître en ce qui le concerne une vérité qui est incontestable? C'est un vain prétexte de dire qu'on ne veut point proclamer les gens heureux tant qu'ils vivent, de crainte des revers qui pourront survenir, et d'alléguer que l'idée qu'on se fait du bonheur nous le représente comme quelque chose d'immuable et qui ne change pas aisément. Et enfin, que la fortune a souvent les retours les plus divers pour un même individu. Paragraphe 3. D'après ce raisonnement, il est clair que si nous voulions suivre toutes les fortunes d'un homme, il nous arriverait souvent d'appeler le même individu heureux et malheureux, faisant de l'homme heureux une sorte de caméléon d'une nature passablement changeante et ruineuse. Paragraphe 4. Mais quoi? Est-il donc sage d'attacher tant d'importance aux fortunes successives des hommes? Ce n'est pas en elles que se trouve le bonheur ou le malheur. La vie humaine est exposée à ces vicissitudes inévitables, ainsi que nous l'avons dit. Mais ce sont les actes de vertu qui seuls décident souverainement du bonheur, comme ce sont les actes contraires qui décident de l'état contraire. Paragraphe 5. La question même que nous agitons en ce moment est un témoignage de plus en faveur de notre définition du bonheur. Non, il n'y a rien dans les choses humaines qui soit constant et assuré au point où le sont les actes et la pratique de la vertu. Ces actes nous apparaissent plus stables que la science elle-même. Bien plus, parmi toutes les habitudes de la vertu, celles qui font le plus d'honneur à l'homme sont aussi les plus durables, précisément parce que c'est surtout en elles que se plaisent à vivre avec le plus de constance les gens vraiment fortunés. Et voilà évidemment ce qui est cause qu'ils n'oublient jamais de les pratiquer. Paragraphe 6. Ainsi, cette persévérance que nous cherchons est celle de l'homme heureux, et il la conservera durant sa vie entière. Il ne pratiquera et ne considérera jamais que ce qui est conforme à la vertu, ou du moins, il s'y attachera plus qu'à tout le reste. Il supportera les traverses de la fortune avec un admirable sang-froid. Celui-là saura toujours se résigner avec dignité à toutes les épreuves dont la sincère vertu est sans tache et qui est, on peut dire, carrée par sa base. Paragraphe 7. Les accidents de fortune étant très nombreux et ayant une importance très diverse, tantôt grande, tantôt petite, les succès peu importants, ainsi que les légers malheurs, sont évidemment presque sans influence sur le cours de la vie. Mais les événements considérables et répétés, s'ils sont favorables, rendent la vie plus heureuse, car ils contribuent tout naturellement à l'embellir, et l'usage qu'on en fait donne un nouveau lustre à la vertu. S'ils sont défavorables, au contraire, ils brisent et ternissent le bonheur, car ils nous apportent avec eux des chagrins et sont, dans bien des cas, des obstacles à notre activité. Mais dans ces épreuves même, la vertu brille de tout son éclat. Quand un homme supporte d'une âme sereine de grandes et nombreuses infortunes, non point par insensibilité, mais par générosité, et par grandeur d'âme. Paragraphe 8. Si les actes de vertu décident souverainement de la vie de l'homme, ainsi que nous venons de le dire, jamais l'homme honnête, qui ne demande le bonheur qu'à la vertu, ne peut devenir misérable, puisqu'il ne commettra jamais d'actions blâmables et mauvaises. À notre avis, l'homme vraiment vertueux, l'homme vraiment sage sait endurer toutes les fortunes sans rien perdre de sa dignité. Il sait toujours tirer des circonstances le meilleur parti possible, comme un bon général sait employer de la manière la plus utile au combat l'armée qu'il a sous ses ordres, comme le cordonnier sait faire la plus belle chaussure avec le cuir qu'on lui donne, comme font chacun en leur genre tous les autres artistes. Paragraphe 9. Si ceci est vrai, l'homme heureux parce qu'il est honnête ne sera jamais malheureux, quoiqu'il ne soit plus fortuné, je l'avoue, s'il tombe par hasard en des malheurs pareils à ceux de Priam. Mais du moins, il n'a pas mille couleurs et il ne change pas d'un instant à l'autre. Il ne sera pas facilement ébranlé dans son bonheur, et il ne suffira pas pour le lui faire perdre d'infortunes ordinaires. Il y faudra les plus grands et les plus nombreux désastres. Réciproquement, quand il sortira de ses épreuves, il ne redeviendra pas heureux en peu de temps. Et tout à coup, après les avoir souffertes, mais s'il ne redevient jamais, ce ne sera qu'après un long et juste intervalle, durant lequel il aura pu retrouver successivement de grandes et brillantes prospérités. Paragraphe 10. Qui peut donc nous empêcher de déclarer que l'homme vertueux est celui qui agit toujours selon la vertu parfaite, étant de plus suffisamment pourvu du bien extérieur, non pas durant un temps quelconque, mais pendant toute une vie. Ou bien, faut-il encore ajouter cette condition expresse qu'il devra vivre constamment dans cette prospérité et qu'il mourra dans une situation non moins favorable, attendu que l'avenir nous est inconnu et que le bonheur, tel que nous le comprenons, est une fin et quelque chose de parfaitement définitif à tous égards. Paragraphe 11. Si toutes ces considérations sont vraies, nous appellerons heureux parmi les vivants ceux qui possèdent ou posséderont tous les biens que nous venons d'indiquer. Il est bien entendu d'ailleurs que quand je dis heureux, c'est toujours dans la mesure où des hommes peuvent l'être. Mais je n'insiste pas davantage sur ce sujet. Chapitre 9. Sommaire. Le destin de nos enfants et de nos amis influe sur nous. Il est même probable qu'après notre mort, nous nous intéresserons encore à eux. Nature des impressions que l'on peut encore éprouver après qu'on est sorti de la vie. Ces impressions doivent être très peu vives. Paragraphe 1. Soutenir que le sort de nos enfants et de nos amis ne puisse influer en quoi que ce soit sur notre bonheur, c'est là une théorie évidemment par trop austère et qui, de plus, a le tort d'être contraire aux opinions reçues. Paragraphe 2. Mais comme les événements de la vie sont très nombreux et qu'ils présentent les nuances les plus diverses, les uns nous touchant de très près et les autres nous effleurant à peine, ce serait un travail long et sans fin de distinguer chacun d'eux en particulier. Il nous suffira d'en parler ici d'une manière générale et d'en donner une simple esquisse. Paragraphe 3. S'il est vrai que parmi les malheurs qui nous frappent personnellement, les uns pèsent d'un grand poids sur notre vie et que les autres n'y touchent que très légèrement, il en doit être absolument de même pour les événements qui concernent tous ceux que nous aimons. Paragraphe 4. Mais pour chacun de ces sentiments que nous éprouvons, il y a bien plus de différence à les éprouver durant la vie ou après la mort qu'il n'y en a entre les forfaits ou les catastrophes imaginaires qui défrayent les tragédies et la réalité de ces affreux événements. Paragraphe 5. Cette comparaison peut déjà servir à faire comprendre cette différence, mais on peut aller plus loin encore et même se demander si les morts peuvent conserver quelques sentiments de bonheur ou d'adversité. Ces diverses considérations font ainsi voir que, s'il est possible que quelque impression, soit en bien, soit en mal, s'étende jusqu'aux morts, cette impression doit être bien faible et bien obscure, ou en elle-même absolument, ou du moins relativement à eux. En tout cas, elle n'est ni assez forte, ni d'une telle nature qu'elle puisse les rendre heureux s'ils ne le sont pas, ou s'ils le sont, leur enlever leur félicité. Paragraphe 6. Ainsi, l'on peut bien croire que les morts éprouvent encore quelque impression des prospérités et des revers de leurs amis, sans que, cependant, cette influence puisse aller jusqu'à les rendre malheureux s'ils sont heureux, ni exercer sur leur destinée aucun changement de ce genre. Chapitre 10. Sommaire. Le bonheur ne mérite pas nos louanges. Il mériterait plutôt nos respects. Nature toujours relative et subordonnée des choses qu'on peut louer. Il n'y a pas de louange possible pour les choses parfaites. On ne peut que les admirer. Théorie ingénieuse d'Eudoxe sur le plaisir. Le bonheur mérite d'autant plus notre respect qu'il est le principe et la cause des biens que nous désirons en cherchant à l'atteindre. Paragraphe 1. Après les éclaircissements qui précèdent, examinons s'il convient de placer le bonheur parmi les choses qui méritent nos louanges, ou s'il ne faut pas plutôt le classer parmi celles qui méritent notre respect. Ce qu'il y a de certain, c'est qu'il n'est pas une faculté dont l'homme puisse disposer à son gré. Paragraphe 2. Toute chose simplement louable ne semble devoir être louée que parce qu'elle a une certaine nature et soutient un certain rapport avec quelque autre chose. C'est ainsi qu'on loue l'homme juste, l'homme courageux et en général l'homme du bien et la vertu à cause de leurs actes et des résultats qu'ils produisent. C'est ainsi qu'on loue l'homme vigoureux, l'homme léger à la course et chacun en son genre, parce qu'ils ont une certaine disposition naturelle et sont dans un certain rapport à l'égard de quelques qualités et de quelques talents. Paragraphe 3. Ce qui rend ceci de toute évidence, ce sont les louanges mêmes que l'on essaie d'adresser aux dieux. Elles les rendent tout à fait ridicules quand on les assimile aux hommes. Et ceci tient à ce que les louanges impliquent toujours une certaine relation, ainsi que nous venons de le dire. Paragraphe 4. Si telles sont les choses auxquelles s'applique la louange, il est clair qu'elles ne s'appliquent point aux plus parfaites. Pour celles-là, il faut quelque chose de plus grand et de meilleur que la louange. La preuve, c'est que nous admirons le bonheur et la félicité des dieux, de même que nous admirons le bonheur de ces hommes qui, parmi nous, se rapprochent le plus de la divinité. Nous en faisons autant à l'égard des biens, et personne ne songe à louer le bonheur comme on loue la justice. On l'admire comme quelque chose de plus divin et de meilleur. Paragraphe 5. C'est là ce que Eudoxe a très bien fait valoir pour justifier la préférence qu'il accordait au plaisir. D'après cette observation qu'on ne loue pas le plaisir, quoique le plaisir soit un bien, Eudoxe croyait pouvoir conclure que le plaisir est au-dessus de ces choses qu'on peut louer, comme y sont par exemple Dieu et la perfection, les deux fins supérieures auxquelles se rapporte tout le reste. Paragraphe 6. Mais la louange peut s'appliquer à la vertu, car c'est la vertu qui apprend aux hommes à faire le bien. Et nos éloges publics peuvent s'adresser également et aux actes de l'âme et aux actes du corps. Paragraphe 7. Du reste, la discussion précise de ce sujet regarde peut-être plus spécialement les écrivains qui ont travaillé sur cette matière des éloges. Quant à nous, il résulte évidemment de ce que nous venons de dire que le bonheur est une de ces choses qui méritent notre respect et qui sont parfaites. Paragraphe 8. J'ajoute en finissant que ce qui lui donne encore ce caractère, c'est qu'il est un principe, car c'est en vue du bonheur uniquement que nous faisons tout ce que nous faisons. Et ce qui est pour nous le principe et la cause des biens que nous recherchons doit être à nos yeux quelque chose de profondément respectable et de divin. Chapitre 11. Sommaire. Si l'on veut se rendre compte du bonheur, il faut étudier la vertu qui le donne. La vertu est l'objet principal des travaux de l'homme d'État. Pour bien gouverner les hommes, il faut avoir fait une étude de l'âme humaine, limites dans lesquelles cette étude doit être renfermée. Citation des théories que l'auteur a exposées sur l'âme dans ses ouvrages exotériques. Deux parties principales dans l'âme, l'une irraisonnable, l'autre douée de raison. Distinction dans la partie irraisonnable d'une partie purement animale et végétative et d'une partie qui, sans avoir la raison, peut du moins obéir à la raison. Division des vertus en vertus intellectuelles et vertus morales. Paragraphe 1. Puisque le bonheur est, d'après notre définition, une certaine activité de l'âme dirigée par la vertu parfaite, nous devons étudier la vertu. Ce sera un moyen rapide de mieux comprendre aussi le bonheur lui-même. C'est la vertu qui paraît être avant toute autre chose l'objet des travaux du vrai politique. Ce qu'il veut, c'est de rendre les citoyens vertueux et dociles aux lois. Paragraphe 3. Nous avons des exemples de cette sollicitude dans les législateurs des Crétois et des Lacédémoniens, et dans quelques autres qui se sont montrés presque aussi sages. Paragraphe 4. Or, si cette étude appartient spécialement à la science politique, il est clair que la recherche que nous allons faire satisfera précisément au dessein que nous nous sommes proposés dès le début de ce traité. Paragraphe 5. Ainsi donc, étudions la vertu, mais la vertu purement humaine, car nous ne cherchons que le bien humain et un bonheur humain. Paragraphe 6. Quand nous disons la vertu humaine, nous entendons la vertu de l'âme et non point celle du corps. Et pour nous, on le sait, le bonheur est une activité de l'âme. Paragraphe 7. Une conséquence évidente de ceci, c'est que l'homme d'État, le politique, doit connaître jusqu'à un certain point les choses de l'âme, tout comme le médecin qui a par exemple à soigner les yeux doit aussi connaître l'organisation du corps entier. L'homme d'État doit d'autant plus s'imposer cette étude que la politique est une science beaucoup plus relevée et beaucoup plus utile que la médecine, et que déjà les médecins distingués se donnent les plus grandes peines pour acquérir l'exacte connaissance de tous les corps humains. Paragraphe 8. Il faut donc que l'homme d'État fasse une étude de l'âme, mais l'étude que nous ferons maintenant n'aura en vue que la politique, et nous ne la pousserons que jusqu'où elle est nécessaire pour nous bien faire connaître l'objet actuel de nos recherches. Un examen plus approfondi et tout à fait exact nous donnerait peut-être plus de peine que n'en demande le sujet que nous discutons ici. Paragraphe 9. Du reste, la théorie de l'âme a été suffisamment éclaircie sur quelques points, même dans nos ouvrages exotériques. Nous leur ferons d'utiles emprunts, et par exemple, nous leur prendrons la distinction des deux parties de l'âme, l'une qui est douée de raison et l'autre qui en est privée. Paragraphe 10. Quant à savoir si ces parties sont séparables, comme le sont les diverses parties du corps, et comme l'est tout objet divisible, ou bien si elles ne sont deux qu'à un point de vue purement rationnel, tout en étant inséparables de leur nature, comme le sont la partie concave et la partie convexe dans la circonférence, ce sont là des questions qui ne nous importent en rien pour le moment. Paragraphe 11. Dans la partie non raisonnable de l'âme, nous avons reconnu une certaine faculté qui paraît être commune à tous les êtres vivants et qui est la faculté végétative. En d'autres termes, c'est la cause qui fait que l'être peut se nourrir et se développer. On doit reconnaître cette faculté de l'âme dans tous les êtres qui se nourrissent, et jusque dans les germes et les embryons, ainsi qu'on la doit retrouver identiquement la même dans les êtres complètement formés. Car la raison veut qu'on admette ici l'identité plutôt qu'une différence. Paragraphe 12. Voilà donc une puissance de l'âme qui est générale et commune et qui ne paraît pas appartenir spécialement à l'homme. J'ajoute que cette partie de l'âme et cette puissance paraissent agir surtout durant le sommeil. Mais l'homme de bien et le méchant n'ont rien dans le sommeil qui puisse les faire distinguer l'un de l'autre. Et voilà ce qui a fait dire que, pendant une moitié de leur vie, les gens heureux ne diffèrent en rien des misérables. Paragraphe 13. Et il est bien vrai qu'il en est ainsi, car le sommeil est pour l'âme une complète inertie des facultés qui la font appeler bonnes et mauvaises, à moins qu'on ne suppose que même en cet état, il n'y ait encore quelques légers mouvements qui aillent jusqu'à elle et qu'ainsi, les songes des hommes d'une nature distinguée doivent être meilleurs que ceux du vulgaire. Paragraphe 14. Mais je ne veux pas pousser plus loin l'examen de cette première partie de l'âme et je laisse de côté la faculté nutritive puisqu'elle ne peut entrer en partage de la vertu spécialement humaine que nous cherchons. Paragraphe 15. À côté de cette première faculté, apparaît aussi dans l'âme une autre nature, qui est généralement irraisonnable, mais qui cependant peut participer, en une certaine mesure, à la raison. Nous reconnaissons en effet, et nous louons dans l'homme sobre qui se maîtrise, et même dans l'homme intempérant qui ne sait pas se dominer, la partie de l'âme qui est douée de raison, et qui les invite sans cesse l'un et l'autre au bien par les meilleurs conseils. Nous reconnaissons aussi en eux un autre principe qui, par sa nature, va contre la raison, la combat et lui tient tête. C'est comme les membres du corps qui, après un accident, ont été mal remis et qui se portent à gauche quand on veut les mouvoir à droite. Il en est de même absolument de l'âme. Et les passions des gens intempérants se portent toujours en sens contraire de leur raison. Paragraphe 16. La seule différence, c'est que pour le corps, nous pouvons voir la partie dont les mouvements sont si peu réguliers, tandis que nous ne la voyons pas dans l'âme. Mais il n'en faut pas moins croire qu'il existe dans l'âme quelque chose qui est contre la raison, qui s'oppose à elle et qui marche contre sa direction. Paragraphe 17. Comment cette partie de l'âme est-elle si différente? C'est une question qui n'importe point ici. Mais cette portion a même bien certainement aussi sa part de raison, ainsi que nous venons de le dire. Dans l'homme qui sait être sobre et se dominer, elle obéit à la raison. Elle s'y soumet bien plus docilement encore dans l'homme sage et courageux, parce qu'en lui, il n'est rien qui ne s'accorde avec la raison la plus éclairée. Paragraphe 18. Ainsi, la partie irraisonnable de l'âme paraît aussi être double. En effet, tandis que la faculté végétative ne participe en quoi que ce soit de la raison, la partie passionnée, et plus généralement la partie instinctive, y participe dans une certaine mesure, en ce sens qu'elle peut entendre la raison et lui obéir, tout comme nous déférons à la raison d'un père, à celle de nos amis, sans d'ailleurs nous y soumettre comme on se soumet aux démonstrations des mathématiques. Ce qui prouve encore que cette partie irraisonnable peut se laisser conduire par la raison. C'est qu'on donne des conseils aux gens et qu'en mainte occasion, on leur adresse toujours ou des reproches ou des encouragements. Paragraphe 19. Mais si l'on peut dire aussi que cette partie secondaire est douée de raison, il faudra reconnaître que la partie raisonnable de l'âme est également double et l'on y distinguera la partie qui possède la raison propre et par elle-même, et la partie qui entend la raison comme on entend la voix d'un père bienveillant. Paragraphe 20. La vertu dans l'homme nous présente également des distinctions fondées sur cette différence. Et parmi les vertus, nous appelons les unes des vertus intellectuelles et les autres des vertus morales. La sagesse ou la science, l'esprit, la prudence sont des vertus intellectuelles. La générosité et la tempérance sont des vertus morales. En parlant du moral et du caractère d'un homme, nous ne disons pas qu'il est savant ou spirituel, tandis que nous pouvons dire qu'il est doux ou qu'il est tempérant. C'est encore à ce point de vue que nous louons le sage à cause des facultés qu'il possède. Et parmi les facultés diverses, nous qualifions de vertus celles qui nous semblent dignes de notre louange. Fin du livre premier.